sai de ar, gelou, é sem pressão. Fazer por fazer nunca será a nossa. A tripa do macaco que derruba a sua tora. Vivência não tem pra sentir real sabor. E nem pra ceder no momento que ligou. Feito carrapato fala.
Radio G 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Comme toutes les semaines, on va parler cinéma, on va parler bande dessinée, on va parler de séries télé, de jeux vidéo, de musique, de tout ce qu'on aime. Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi ? 101.5 ? Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale de Bande Geek Mafia, émission forcément un petit peu particulière. Ce que je vous propose de faire, c'est comme d'habitude de vous parler un petit peu de lecture, et en ces temps où il est nécessaire de rester chez soi, j'ai pris ma pile, autrement dit ma pile de livres à lire. J'ai pris soin aussi d'explorer ma bibliothèque afin de répondre à un challenge qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Défi que vous avez peut-être vu passer et dans lequel vous vous êtes peut-être déjà lancé. C'est celui du lecteur confiné. Donc dans ce petit challenge, vous avez 21 propositions de lecture, 21 finalement défis. Vous devez lire par exemple au moins un livre que vous avez emprunté, un livre de moins de 150 pages, un livre qui était tout en bas de votre pile. Ça peut être un livre qui est une dystopie, un livre qui fait peur, un livre publié en 2020. Voilà, vous avez 21 comme ça propositions. Donc moi je me suis lancée et comme le soleil était de la partie, quoi de mieux que de prendre un bon bouquin, de s'installer au soleil dans son jardin, sur sa terrasse ou sur son balcon. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous présenter trois des livres qui m'ont accompagné en ce début de confinement. Le premier m'a permis de répondre à l'item, un livre que j'ai emprunté, puisqu'il s'agit d'un livre qui s'appelle Signia, que j'ai eu l'occasion d'emprunter à la bibliothèque avant de partir en confinement. Il s'agit du cinquième roman d'une auteure anglaise qui s'appelle Dorothy Thompson. Il est un peu difficile de définir ce roman. La couverture et le thème qui dirige vers le thriller ne correspond pas tout à fait à ce qu'est le livre en lui-même, parce que la narration n'est pas vraiment empreinte d'angoisse et de tension qui sont pourtant caractéristiques de ce genre. Pour vous résumer l'histoire, il y a 18 mois, donc on retrouve le mari de notre héroïne qui s'appelle Saffron. Donc son mari a été tué et son meurtrier n'a jamais été retrouvé. Pourtant, Saffron connaît son identité, alors pourquoi garde-t-elle le silence ? La vie va reprendre difficilement son cours pour la jeune femme qui veille désormais seule sur ses deux enfants, donc Phoebe 14 ans et Zane 10 ans, et un nouveau choc l'attend lorsque sa fille lui avoue son bouleversant secret. Saffron va recevoir une lettre du meurtrier et elle va se sentir piégée et va savoir que sa famille court un grave danger. Donc malgré l'absence de l'aspect thriller, j'ai aimé cette lecture pour l'aspect humain. C'est finalement plus un roman contemporain sur le deuil et la reconstruction d'une mère et de ses enfants qu'un polar avec du suspense. L'auteur réussit le tour de force de nous faire entrer dans la tête de cette femme complètement paumée qui apprend à dissimuler ses failles, ses doutes pour affronter sa vie, sa relation conflictuelle avec sa fille de 14 ans. L'apprentissage peu à peu de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas, de ce qu'elle est prête à accepter ou non, notamment dans son travail, sa famille et ses relations. Donc dans ce pavé, puisque c'est un pavé de 608 pages, plusieurs thèmes sont abordés, sans ennui, malgré quelques longueurs et quelques faiblesses. On a notamment de nombreux flashbacks où on a un peu l'impression de tourner en rond, tourner autour du pot, et l'intrigue n'avance pas forcément énormément. Les personnages restent cependant tous intéressants, malgré des difficultés parfois à croire aux motivations de leurs actions, en particulier de ceux du personnage principal. L'auteur nous laisse le soin de nous faire notre propre opinion, tout en nous donnant des outils nécessaires à la perception de leur personnalité. En résumé, c'est un livre qui n'est finalement pas ce qu'il paraît, mais une lecture cependant agréable. Je vous propose ensuite de poursuivre avec le livre que j'ai lu qui fait moins de 150 pages et qui m'a permis de replonger dans un classique de la littérature jeunesse. Il s'agit de La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, qui est paru en 2004 chez Pocket. Il s'agit du tome 1 intitulé Tomek. Donc l'histoire. Lorsque Tomek rencontre Anna pour la première fois, il sait qu'il ne pourra plus se passer d'elle. Après son départ, le jeune adolescent part à sa recherche. Anna lui a dit qu'elle cherchait l'eau qui rend la vie éternelle. Tomek prend le prétexte de sauver son vieil ami de la mort pour suivre les traces d'Anna. Ainsi commence une longue quête qui doit les emmener vers la supposée rivière qui coule à l'envers pour en remonter le cours et trouver son origine. Le chemin de Tomek va être parsemé de rencontres, de personnes aidants, joyeux, drôles et aventureux. C'est dans la force de l'amitié et de l'amour naissant que le jeune adolescent puise ses ressources pour atteindre son objectif et affirmer sa volonté. Il devra combattre ses peurs pour ouvrir des passages qui profiteront aussi aux autres et lui permettront de gagner confiance en lui-même. Les lieux magiques et extraordinaires sont découverts dans l'admiration et la crainte, cela demandant aux jeunes héros de contrôler des émotions et de faire preuve de courage. Ce livre présente une sorte de guide initiatique drôle et émouvant. Il peut être lu à partir de 10 ans et c'est un indispensable. L'écriture de Jean-Claude Mourleva est comme toujours poétique, aérienne et ne peut que favoriser la compréhension et le plaisir. L'histoire est bien rythmée, les chapitres sont courts et nous emmènent à chaque fois dans un lieu différent. Les personnages sont très attachants. Bref, c'est un très joli conte philosophique, un beau livre d'initiation à mettre dans les mains du plus grand nombre. Pour information, ce roman vendu à plus de 500 000 exemplaires est suivi d'un tome 2 qui est intitulé Anna. Les deux ont été adaptés en bande dessinée par Max Lhermeunier et publiés aux éditions Jungle. Pour finir, je vous propose un best-seller encore jamais lu. C'est l'item numéro 3 de mon petit défi. Bon, c'est pas vraiment le best-seller, c'est la suite d'un best-seller. Je triche un petit peu. Il s'agit en effet de la suite de L'écorcheur, le polar à succès qui a permis de me faire découvrir l'auteur italien Donato Carisi. Je vous donne un petit peu le résumé de cette histoire. 7 ans après s'être mesurée au chuchoteur, Mila Vasquez travaille au Limbe, le département des personnes disparues. On a tous ressenti l'envie de s'évanouir dans la nature, de fuir le plus loin possible, de tout laisser derrière soi. Or, chez certains, cette sensation ne passe pas. Elle leur colle à la peau, les possède, les dévore et finit par les engloutir. Un jour, ils se volatilisent, corps et biens, nul ne sait pourquoi. Bientôt, tout le monde les oublie, sauf Mila. Et puis soudain, ces disparus réapparaissent pour tuer. Face à eux, Mila devra échafauder une hypothèse convaincante, solide, rationnelle, une hypothèse du mal. Mais pour les arrêter, il lui faudra à son tour basculer dans l'ombre. Chers lecteurs, vous serez contents de vous laisser une fois de plus manipuler et mener très agréablement par le bout du nez par l'auteur italien. L'histoire nous plonge une fois de plus dans les méandres du mal. L'addition d'un nouveau personnage apporte un vent de fraîcheur bienvenu. En effet, Simon Berriche est intrigant et Carisi nous le façonne chapitre après chapitre, le rendant indispensable. Couplé à Mila, ce duo fait des merveilles. Comme toujours chez l'auteur, l'intrigue est un tiroir, mais il s'encastre magnifiquement bien. Ce thriller est donc une réussite totale. Je vous rappelle donc toutes les références des 3 livres cités ce soir. Nous avons signé A de Dorothy Compson, édité chez Belfond, au prix de 22 euros. L'écorché de Donato Carisi, édité au livre de poche et pour le prix de 7,90 €. Et pour finir, La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, que vous pouvez trouver chez Pocket Jeunesse aux alentours de 6 euros. pour les amateurs de bande dessinée. Les éditeurs sont nombreux à mettre à disposition plusieurs titres gratuitement sur leur site en cette période de confinement. C'est le cas notamment de Dargo ou du Lombard. Nous avons également la BPI du Centre Georges Pompidou qui donne accès via sa médiathèque à des centaines de bandes dessinées à déguster en ligne. C'est une bonne surprise, vous y trouverez tous les grands classiques mais aussi des BD beaucoup plus récentes. Pour accéder à cette plateforme qui s'appelle Isneo BPI, vous devez vous inscrire en ligne, c'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. Pour ceux qui n'auraient plus rien sous la main mais qui voudraient se déconnecter et éviter de lire sur les écrans, j'ai la solution. J'ai même deux solutions. Vous pouvez découvrir l'application qui s'appelle Rocambole. C'est une offre originale qui propose de lire des créations sur son portable original, un épisode de 5 minutes. Vous avez plus d'une cinquantaine d'histoires qui vous attendent dans différents styles de fiction, essais, romans, fantasy, thriller. Rocambole propose l'ensemble de son offre gratuitement, donc pour l'occasion. Et pour finir, un autre site internet sur lequel vous pouvez vous rendre, c'est celui qui s'appelle audiocité.net, qui propose des livres audio gratuits et téléchargeables en MP3. Vous pouvez écouter un roman, une nouvelle, un poème d'auteur classique ou contemporain. Ce site est bien classé et propose un choix important d'entrée. Ça peut être par thème, par durée, par genre, etc. Donc je vous propose à tous une bonne lecture, qu'elle soit sur papier, numérique ou audio. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine chronique dans Bande Geek Mafia sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Radio G 101.5 FM.
Le temps passe moins vite si on le regarde, si on l'invite, si avec égard on insiste pour qu'il prenne place dans nos vies. Le temps ne passe jamais lentement, tu t'en rends compte en vieillissant, et si tu le veux, à tout moment, il peut adoucir ton présent.
Tu sais, ce présent si rapide qu'on a poussé plus d'un haut suicide, qui bouffe les protides et les lipides des non-vies bien trop vides. Vide de temps qu'on veut pas se donner pour mieux produire ou consommer. Que l'on soit riche ou mal payé, le temps c'est tous nous consommer. Quand il fait beau, faire une pause pour un moment, s'arrêter manger un instant, pendant que les oiseaux parfument de l'air chant la symphonie du vent.
Le temps se faufile et défile à la vitesse de nos villes. Être le plus haut dans son building pour croire qu'on est le moins débile. Laisser une trace indélébile de son passage chez les humains. Il doit en rester un sur 10 000 qui envisage un autre destin. Ces gens qui de temps en temps prennent le temps d'utiliser leur sens pour que leur vie en ait un, et qui retrouvent dans le silence quelques odeurs, quelques parfums. Celui qui passait tout doucement, où les secondes paraissaient si longues que les minutes étaient des années. Le temps pour s'amuser, même si on n'est plus un gosse. Et surtout le temps d'aimer, même si la vie nous fait des crosses.
Cette vie qui je vais le prendre, je vais le prendre, je vais prendre le temps.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la sortie de mon jeu vidéo préféré en ces temps de confinement. Je veux bien sûr parler d'Animal Crossing New Horizons qui est sorti le 20 mars 2020 sur la Nintendo Switch. Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour partir s'exiler sur une île déserte, loin de l'agitation et des problèmes pour s'offrir la chance de tout recommencer? C'est la promesse que Nintendo nous fait avec Animal Crossing New Horizons. Fini le petit village en bord de mer, vous voilà désormais l'un des premiers à fouler le sable de ce qui sera bientôt votre île. Et pour ce nouvel opus, l'accent a été mis sur la personnalisation avec notamment l'apparition du crafting, qui nous permet de construire ses propres meubles avec les ressources que l'on trouve dans le jeu, et du terraforming, qui est la capacité à modeler le terrain. L'autre nouveauté qui vient bouleverser un tant soit peu le rythme du jeu, c'est l'arrivée des objectifs. Au départ, Animal Crossing, c'est une série de jeux vidéo de gestion, développée par Nintendo, dans laquelle le joueur emménage dans un village habité par des animaux anthropomorphes et où diverses activités sont proposées. La série est notable pour son gameplay de type sandbox, c'est-à-dire qui fait principalement appel à la curiosité et à la créativité du joueur, le tout avec ou sans objectif prédéfini, et pour son utilisation étendue de l'horloge et du calendrier de la console, qui simule un déroulement en temps réel. D'où l'apparition du lapin de Pâques et la floraison des cerisiers lors des festivités du mois d'avril par exemple. Pour beaucoup d'adeptes, Animal Crossing y fait office de refuge, voire de petit coin de paradis où il fait bon vivre parsemé de bienveillance. Sans aucune pression, vous pouvez faire ami-ami avec vos voisins et voisines, contracter des prêts immobiliers à taux zéro et sans date d'échéance, pêcher, jardiner, partir à la chasse aux insectes ou déterrer des fossiles en toute insouciance pour aider le musée à agrandir sa collection. Ça, c'est un peu le topo de chacun des épisodes sortis, avec à chaque fois une petite nouveauté. Et New Horizons y reprend grosso modo l'esprit de la série, mais bouscule progressivement le jeu avec quelques nouveautés. Vous vous retrouvez cette fois sur une île presque vierge, et en tant que délégué insulaire, vous avez la tâche de donner vie et rendre le plus attractif possible ce petit lopin de terre afin d'attirer un maximum de voyageurs. Comme dans le précédent volet, vous gérez les constructions et participez au développement des boutiques. Voilà la proposition, libre à vous d'y répondre ou de faire votre vie de votre côté tranquillement. Nul doute qu'il s'agit là d'un bon investissement pour occuper les longues semaines à venir. La multitude de choses à faire et encore à découvrir avec les futures mises à jour, le système d'objectifs et la possibilité de modifier chaque recoin de son île devraient enthousiasmer les fidèles, comme moi, et peut-être convaincre les autres sensibles au crafting. Et pour résumer, le plus brièvement possible, la série, elle a su évoluer sans trahir l'esprit des précédents volets, couler des jours paisibles et faire ce qu'il nous plaît sans pression. New Horizons, c'est la bouffée d'air frais qu'il nous fallait. Du coup, je ne peux que vous le conseiller, achetez une Switch et jouez, parce que vous avez du temps, donc profitez-en. Prenez soin de vous et à bientôt!
Below the window, Radio G. 101.5 FM.
What you call me? Well, if you give me a chance, I was gonna call you a crazy pig fucking dumbass pussy piece of shit.
Oh brother, you's a dead man.
Bonjour à tous, une rubrique bande dessinée un petit peu particulière puisque c'est une rubrique confinée, comme nous tous, encore pour un petit bout de temps. Mais bon, on tient bon. On tient bon en faisant quoi ? Eh bien, en lisant de la BD et en écoutant de la musique, ce qui est un peu mon cas, d'où ce petit fond musical. Alors, première bande dessinée que j'ai découvert avant justement la fermeture des sorties possibles, eh bien, de Ducoudray et Harris, Lucienne ou les millionnaires de la Rondière aux éditions Grand Angle. Alors, nous sommes cette fois-ci partis dans une campagne, dans la campagne, et nous allons suivre deux sexagénaires campagnards qui vivent dans un petit village qui s'appelle Lucienne et Georges, le petit village de la Rondière, où Georges passe son temps à réparer son infatigable tracteur, et Lucienne, eh bien elle, essaye de s'occuper avec les tâches quotidiennes pour pouvoir apaiser, et là c'est la partie la plus triste de l'histoire, pour apaiser un peu le deuil de son unique fils, en essayant à la fois de parrainer des enfants défavorisés dans le monde entier, et puis en essayant de trouver un petit peu de quoi s'occuper. Et au final, leur vie très bien réglée, routinière, va se trouver bouleversée par l'arrivée du facteur qui va amener à Lucienne une lettre qui lui annonce qu'elle est la grande gagnante du jeu concours des magasins. Bip, je vais pas dire, parce qu'autrement je ferai de la publicité des magasins. Donc, bip. Et qui va donc bouleverser sa vie. Effectivement, pensez donc, elle risque de gagner, elle va gagner, elle a gagné, peut-être, le premier prix de 200 000 euros. Elle va enfin avoir de quoi parrainer tous les enfants nécessiteux de la Terre, le rêve absolu pour elle. Et donc du coup, on va suivre tout au long de cette bande dessinée, eh bien, le rêve de Lucienne qui va prendre corps à un moment ou à un autre. Alors, voilà, c'est une histoire qui est très gentillette, qui est très très bien menée, qui finalement on passe un bon moment. Graphiquement, c'est très agréable à lire aussi en même temps. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est que l'auteur, à la fin, Aurélien donc Ducoudray, eh bien, a une petite phrase qui est assez magique. Il dit tout simplement dans cette histoire, tout est vrai. Tout est vrai sauf l'histoire. Donc, du coup, on est un petit peu surpris. Qu'est-ce qui est faux ? Bien sûr, l'histoire en elle-même est complètement fausse. Ce qui est vrai, ce sont les personnages. Ces personnages qui sont vraiment des personnages du réel que l'auteur a croisé à un moment ou un autre de sa vie. Et puis, vous apprendrez plein de choses en lisant le petit cahier graphique qui accompagne justement le petit cahier d'explication qui accompagne cette bande dessinée. Alors donc, je vous redis le titre, c'est Lucienne ou les millionnaires de la Rondière aux éditions Grand Angle, du Ducoudray et Harris. Donc ça, c'est la première petite découverte assez sympathique. Deuxième découverte, et bien là, cette fois-ci, nous partons dans un univers complètement différent. C'est l'univers steampunk que nous proposent Pevel et Willem, avec cette série qui va être composée de trois bandes dessinées qui s'appellent Les Artilleuses. Donc là, nous avons donc le premier, le tome 1 de cette trilogie, Le vol de la Sagillaire. Et là, nous partons dans le Paris du début du XXe siècle. Nous sommes exactement en 1911 dans le Paris, mais le Paris des merveilles, où vivent à la fois des fées, des enchanteurs, des gnomes et même quelques dragons. Et donc nous avons un groupe cambrioleuses qui s'appellent les Artilleuses, qui sont en train de préparer et qui vont faire leur dernier coup, le vol d'une mystérieuse relique, la Sagillaire. Et malheureusement, tout ne va pas se passer exactement comme elles avaient prévu, puisque du coup, nos trois héroïnes, qui sont Lady Remington, Miss Winchester et Mamselle Gatling, vont se retrouver pourchassées non seulement par les Brigades du Tigre, et oui, 1911 oblige, mais également par les redoutables services secrets du Kaiser. Et donc là, maintenant, on attend avec impatience le tome 2 pour connaître la suite de cette aventure qui est extrêmement agréable à lire à voir graphiquement. Donc c'est bien mené, donc on attend avec impatience le tome 2. Donc Pleven et William, Les Artilleuses, le vol de la Sagillaire aux éditions Draco. Et puis enfin, parce que confinement oblige, il faut bien faire quand même un petit peu de sport. Le sport, eh bien, si on ne peut pas en faire complètement, on peut au moins lire des bandes dessinées qui ont attrait au sport. Et une série que j'apprécie particulièrement, c'est la série Les Rugbymen. Là, nous propose cette fois-ci un nouveau tome. Mais un nouveau tome qui va nous mettre, qui va mettre en avant finalement d'autres personnages que nos rugbymen préférés, puisque cette fois-ci nous partons dans le monde du rugby féminin. Et oui, effectivement, on n'est pas sans savoir quand même que l'équipe de France féminine occupe la quatrième place au classement des équipes de rugby. Hein. Donc, du coup, suivant un petit peu cette montée en puissance. Du rugby féminin, eh bien les rugbymen se sont adaptés avec ce 18e opus, mais un opus avec un titre provocateur, puisque effectivement le titre c'est le rugby, un sport de gonzesses. Donc là, vous voyez, on aime bien être dans la provoque. Et donc du coup, on va découvrir l'équipe féminine de Paillard, hein, le Paillard Club féminin, qui va nous amener des personnages que l'on va reconnaître hein, finalement dans les traits de caractère. C'est exactement les mêmes traits de caractère que l'équipe masculine. Et donc du coup, on passe un excellent moment aussi avec cette bande dessinée, les Rugbymen de Pika et de Becca et Poupard. Pika, c'est les profs aux éditions Bambou, justement. Donc voilà. Donc je vous rappelle les trois bandes dessinées que je vous conseille pour passer du moment, un bon moment. Donc les Rugbymen, hein, le tome 18 de Becca et Poupard aux éditions Bambou. Les Artilleuses de Peven et Willem, le vol de la Sagillaire aux éditions Draco. Et puis quelque chose de beaucoup plus frais quand même, de Ducoudray et Harris, Lucienne ou les Millionnaires de la Rondière. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai diverti pendant un petit moment, que je vous ai donné envie de lire ces bandes dessinées, ou du moins de lire un petit peu. Mais surtout, pensez à une chose, pensez bien à rester chez vous, confiné. Je sais que c'est pas facile, mais bon, il faut tenir bon, c'est important. Donc restez chez vous et écoutez Radio G. Radio G, 101.5, la radio qui fait le point. Merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir, à bientôt. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of life that shows the way.
www.radio-g.fr.
Bonjour à tous, bonjour Seb, bonjour Anaïs, bonjour tout le monde. Chers auditeurs, bah écoutez, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette émission en confinement. Je suis sûr qu'on a quand même pas mal de choses à se dire et à vous dire. Voilà, je suis ravi de vous retrouver et je vais vous proposer aujourd'hui une petite chronique sur les films qu'on peut se faire en confinement et également des petits bons plans si vous êtes fan de BD et que vous êtes arrivé au bout de votre stock. Alors, première partie de ma chronique sur les films que l'on peut regarder en confinement. Alors, je me suis un petit peu replongé dans ma filmothèque. Il s'agissait pour moi de retrouver des films de science-fiction ou affiliés à la science-fiction que j'aime beaucoup et qui se regardent bien sur la confinement puisque c'est un moment d'intense introspection, n'est-ce pas ? Où on se regarde soi-même, on essaie de retrouver son humanité quand on ne sait plus quel jour on est. Aujourd'hui, par exemple, écoutez, on est mercredi puisque c'est le jour de l'émission. Alors, donc je vais vous donner plusieurs titres de films que je vous conseille chaleureusement de voir ou revoir dans cette période de confinement, puisqu'à priori il reste au minimum jusqu'au 11 mai, donc on va pouvoir s'intéresser à tout ça. Alors, le premier film que je vous propose, ça va être iRobot de Alex Proyas, qui est sorti en 2004. Alors, c'est un film avec Will Smith, hein, vous l'avez très certainement déjà vu. Ça reprend une nouvelle d'Asimov. Alors, le pitch est le suivant, hein, en 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Et le détective Dale Spooner enquête sur le meurtre du docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique et accessoirement son ami. Le principal suspect semble être un androïde nommé Sony. Or, si l'on s'en réfère aux fameuses lois de la robotique, trois lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer. S'ensuit donc une enquête aussi intéressante que passionnante, avec beaucoup de rebondissements et d'action. N'oublions pas qu'il y a Will Smith dans le film. Et donc, on a là un film très très sympa, pas seulement pour passer le temps, mais il nous met en image vraiment une nouvelle d'Asimov, avec pas mal d'action, etc. Donc, c'est un très bon divertissement. Alors, un autre film qui n'est pas ce coup-ci de la science-fiction, mais que j'ai vraiment adoré, c'était Imitation Game de Morten Tildum, qui est sorti en 2015, qui nous retrace l'histoire de Alan Turing, le mathématicien et cryptologue, qui a été chargé par le gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, machine qui était réputée inviolable et qui permettait aux Allemands de crypter leurs communications. Pourquoi ce film alors que ce n'est pas de la science-fiction ? Eh bien tout simplement parce que là vous avez à l'écran les prémices de l'invention de l'informatique. Et en plus de ça, c'est vraiment un excellent film, les acteurs sont au top, le scénario est particulièrement bien ficelé et ça permet aussi de réhabiliter ce personnage historique éminemment important dans nos sociétés actuelles. Sans lui, il n'y aurait pas d'informatique. Ensuite, une série de deux films qui font partie de mon top 10 des films de tout ce que j'ai pu voir. On a le premier Blade Runner de Ridley Scott qui est sorti en 1982. Alors, pour replacer un petit peu l'histoire, il est inspiré du très bon livre de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Alors, pour le pitch du film, on est en l'an 2019, l'année dernière, à Los Angeles, qui est devenue une ville décadente et qui emploie des humanoïdes dont la durée de vie est très brève. Révoltés contre ce triste destin, quatre réplicants, donc ces androïdes, s'enfuient, qui sont poursuivis par un Blade Runner, un tueur de réplicants. On retrouve l'excellent Harrison Ford, hein, qui est vraiment un de mes acteurs préférés depuis que je suis tout petit, et ça fait vraiment plaisir. On a là un monument de la science-fiction, vraiment un des films fondateurs de la science-fiction tel qu'on la connaît actuellement. La suite, je vous la conseille également, Blade Runner 2049 du réalisateur Denis Villeneuve, qui est sorti en 2017. En 2049, donc, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créées par bioingénierie. Et l'officier K est aussi un Blade Runner, comme son prédécesseur Harrison Ford. Il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret enfui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, l'ancien Blade Runner du premier film qui a disparu depuis des décennies. Alors on a vraiment un duo d'acteurs entre Ryan Gosling et Harrison Ford qui fait que le film nous tient vraiment en haleine. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film par rapport à d'autres suites qu'on peut proposer dans d'autres univers, c'est que Denis Villeneuve a gardé l'essence de ce qui faisait le premier Blade Runner, à savoir des images assez lentes. Et c'est vraiment pour ça que Blade Runner 2049 est une suite qui fait honneur à son prédécesseur. Autre film de Ridley Scott, donc Blade Runner, vous avez fait Ridley Scott en 82, et il nous a fait Seul sur Mars en 2015. Alors, le pitch est vraiment très sympa. C'est lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Watney est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. Là, on a un super film pour le confinement. Imaginons, si malheureusement, si pour vous, vous êtes enfermé tout seul, eh bien écoutez, vous vous sentez peut-être comme cet homme seul sur Mars, et ça pourra peut-être vous donner des idées pour mieux passer le cap. Voilà. Pour sur un ton plus léger, c'est vraiment un très bon film, un peu introspectif. Le rythme est particulier, mais moi, j'ai quand même beaucoup apprécié. Autre film d'un autre de mes réalisateurs préférés, à savoir Steven Spielberg, AI, Intelligence Artificielle, qui est sorti en 2001. Là, c'est vraiment pareil, un des monuments de la science-fiction actuelle. Alors, le pitch est le suivant. Dans un 21e siècle, la fonte des glaces a submergé la majorité des terres habitables, entre parenthèses qui nous pend au nez, et provoqué famines et exodes. Les robots sont devenus de composantes essentielles de la vie quotidienne et assurent désormais la plupart des tâches domestiques. Imaginons que votre lave-vaisselle a des bras et des jambes et vous aurez AI. Dans ce contexte, David, un androïde sensible de 11 ans, entame un périlleux voyage à la recherche de son identité et de sa part secrète d'humanité. C'est un super film en matière de confinement. On a vu des comportements un peu particuliers à l'actualité. Et c'est surtout un film qui va nous interroger sur ce qui fait notre humanité ou notre absence d'humanité. Et c'est pour ça que c'est un film très poétique, très beau. Donc vraiment, je vous le recommande. Et pour continuer vraiment sans transition, un autre film tout à fait de ce genre-là, qui là, moi, vraiment, est un de mes coups de cœur d'enfant, un film dont je me suis toujours pas remis 20 ans après, c'est L'Homme Bicentenaire de Chris Columbus, un réalisateur pareil qui a fait que des perles, avec le très très regretté Robin Williams, donc d'après une nouvelle d'Isaac Asimov. L'Homme Bicentenaire est un film qui est sorti en 99. Alors voici le synopsis. La famille Martin fait l'acquisition du nouveau robot domestique NDR-114, surnommé Andrew. Très vite, l'appareil fait preuve de créativité et développe des sentiments. Passionné par la complexité de l'espèce humaine, Andrew décide de s'affranchir et de modifier son apparence afin de s'y intégrer. Mais il va le découvrir que la liberté a un prix. Robin Williams est un super acteur, ça on le sait tous, mais alors là, dans ce rôle-là, il est vraiment émouvant, le jeu est très juste. Le film est très poétique. Si vous avez un film de science-fiction, si vous voulez initier vos enfants à la science-fiction, je vous conseille vraiment ce film. Hein, pas de violence, mais que de la poésie, une réflexion assez profonde sur ce qui définit ou non un humain. Et vraiment un très 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 beau film. Donc vraiment, foncez voir L'Homme Bicentenaire de Chris Columbus avec Robin Williams. Un film qu'on ne peut pas ne pas mentionner, évidemment, hein, Stanley Kubrick, l'Odyssée de 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968. Je ne vais pas y revenir, on connaît tous à peu près le pitch avec le monolithe, hein, cette pierre magique noire qui apparaît à certains moments cruciaux de l'histoire de l'humanité. Je me contente simplement de vous donner le synopsis. Les astronautes David Bowman et Frank Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes vaquent sereinement à leur tâche quotidienne sous le contrôle de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelligence et de parole. Cependant, Hal, sans doute plus humain que ses maîtres, commence à donner des signes d'inquiétude. Mais à quoi rime cette mission, au juste, et que risque-t-on de découvrir sur Jupiter ? Alors voilà, on a un film sur qu'est-ce que l'humanité, et finalement l'idée d'humanité qui transcende le temps et l'espace. Et on a aussi une réflexion sur l'altérité, hein, comment gérer l'autre, à la fois quand il est humain ou robotique, et finalement est-ce que ça pose une différence ou pas. Vraiment un démonument, hein, même pas forcément que de la science-fiction, c'est juste un élément à avoir pour tout cinéphile qui se respecte. Ce film peut être dans l'héritage de Kubrick, hein, j'ose, hein, je vais oser, avec Interstellar de Christopher Nolan qui est sorti en 2014, où le film raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilise une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites du naine et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. Il s'agit aussi surtout de sauver l'espèce humaine, puisqu'elle se retrouve sur une terre agonisante où l'agriculture n'est bientôt plus possible et il va devenir impossible de nourrir les milliards d'humains sur la planète. Donc on part en quête finalement peut-être aussi de rédemption, et c'est un monument là encore de la science-fiction. Alors peut-être sur maintenant un autre film, mais sur une dimension un peu plus pop-corn peut-être, on va avoir Valérian et la cité des mille planètes de Luc Besson, sorti en 2017. Alors Valérian, c'est à la base une super BD, peut-être un peu datée pour certains de nos plus jeunes auditeurs, mais je vous conseille quand même d'essayer. Au niveau du film, l'histoire est la suivante. Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargée de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le ministre de la Défense, le duo part en mission sur l'extraordinaire cité intergalactique Alpha. Et un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la cité des mille planètes. La cité des mille planètes qui est l'autre nom d'Alpha. On a un super film d'action, science-fiction, les images sont justes mais grandioses, magnifiques, c'est du très très grand Luc Besson à ce niveau-là. Moi je le place au même niveau que le cinquième élément. Après, le jeu des acteurs est peut-être un peu plus pauvre que sur les films précédemment cités, mais on a vraiment quelque chose où on passe un super moment. Idéalement, vous regardez ça le soir ou l'après-midi avec une petite glace ou un petit peu de pop-corn, des petites choses comme ça, et vous allez passer un excellent moment. Toujours sur les films régressifs où on est sûr de passer un bon moment seul avec sous sa couette ou en famille, comme vous voulez, Ready Player One de Steven Spielberg est sorti en 2018. J'en avais déjà parlé sur Band Geek Mafia, mais vraiment je vous conseille de vous le revoir. Alors, en 2045, le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, un univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques, l'Easter Egg numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. Imaginez l'Oasis, c'est un petit peu le Fortnite, alors j'aime pas Fortnite du tout, mais c'est une sorte de Battle Royale gigantesque ou d'univers, c'est un mix entre tous les jeux vidéo massivement multiplayer online, les MMO, en même temps qu'un réseau social gigantesque de type Instagram, Facebook, TikTok, tout ce que vous voulez, et tout ça est mélangé et rassemblé dans un seul espace virtuel où toute la population humaine est en permanence connectée, et c'est vraiment génial. Petit plaisir geek en plus, Steven Spielberg a mis un nombre incalculable de références, comme on appelle ça, des easter eggs, à toutes les références de la geek culture, la pop culture, hein, en Retour vers le futur, à les jeux vidéo Halo, on a absolument tout y passe, hein, des mangas aux comics, aux films, tout, et c'est vraiment un régal, un pur plaisir, moi franchement j'adore, et je me lasse pas de le voir et de le revoir, donc vraiment voilà. Alors ça vous fait quand même quelques films à voir, donc je répète les différents noms. On a iRobot, Imitation Game, Blade Runner et sa suite Blade Runner 2049. On a aussi Seul sur Mars de Ridley Scott, AI Intelligence Artificielle, 2001 L'Odyssée de l'Espace, Interstellar de Christopher Nolan, Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson, et enfin Ready Player One. Alors j'ajouterai pour terminer ma première partie de ma petite chronique sur les films, où on a la possibilité en plus de se refaire évidemment l'intégralité des Marvel. Alors pour ça, il vous faut prévoir quand même 152 heures pour réaliser votre marathon Marvel. Alors le programme, hein, on a tous les films depuis Hulk, Iron Man 1, 2, 3, Thor 1, Thor 2, Thor 3, tous les Avengers, les séries Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., etc. Bref, si on passe l'intégralité de tous les films du Marvel Cinematic Universe, plus les séries afférentes qui y sont reliées, vous en avez pour la bagatelle de 152 heures, soit environ 25 jours à raison entre 4 et 8 heures de film par jour. Voilà, ça vous fait un bon petit programme d'ici le 11 mai. Creature Shock Radio FM. Seconde partie de ma chronique du jour. Alors, si comme moi, vous êtes un féru de BD, ou de comics, ou de manga, ou les trois, et que vous êtes arrivé au bout de votre BD tech, si importante qu'elle puisse être, eh bien écoutez, j'ai quatre sites à vous proposer qui pourront peut-être vous sauver la vie, ou en tout cas vous occuper. En fait, il s'agit de sites internet ou d'applications hein, sur smartphone, Android ou Apple, qui vous permettent de lire des BD, des mangas, et éventuellement même en plus des livres. Alors sans plus attendre, les voici. Il s'agit tout d'abord de BD Buzz. Alors BD Buzz est une application de lecture de BD complète, hein, mais elle fait bien plus. Elle permet aussi de gérer toute sa collection BD. Alors quand je dis BD, c'est BD, manga, comics, albums papier classique et numérique. On peut aussi gérer ses presses, sa wishlist, ses achats. Bref, c'est vraiment une application intéressante pour les gros consommateurs de BD qui ont aussi une large collection d'ouvrages au format papier. Vous pouvez tout gérer, savoir où vous en êtes sur chaque collection. C'est vraiment une application très très intéressante. Et ça vous permet aussi de les lire accessoirement, ce qui est quand même pas mal. Pardon. On trouve aussi Isneo. Isneo, c'est une autre plateforme majeure, hein, qui offre un large choix d'albums. Il y a quand même plus de 30 000 références. L'application permet de lire les BD, les mangas et les comics préférés sur tous les écrans. Ça peut être ton smartphone, ta télé connectée, ton ordinateur, ta tablette, etc. Alors l'offre est double. Alors, par contre, c'est payant, évidemment. Soit on achète les albums à l'unité, soit on souscrit à un abonnement de 9,99€ par mois pour avoir accès à une sélection de 3200 albums à lire en illimité. Et petite astuce, puisqu'on est confiné pour encore un mois, le premier mois est offert, soit le temps probable du confinement qui vous reste à la maison. Donc voilà, Isneo, un mois gratuit, 3200 albums à lire en illimité, vous avez de quoi faire. Troisième possibilité, le site Sequencity, qui est fait par Leclerc. Alors c'est une application pour lire des bandes dessinées, mais elle apporte plusieurs fonctionnalités qui en font bien plus qu'un simple lecteur de BD, manga ou comics. Les ouvrages peuvent être lus aussi hors connexion et avec une synchronisation sur plusieurs écrans. Alors le catalogue revendique plus de 20 000 BD, mangas et comics qui sont disponibles sur tous les écrans avec de nombreux classiques. On a Blake et Mortimer, Largo Winch, 13, Les Schtroumpfs, Titeuf, Lucky Luke, Dragon Ball, Naruto, The Walking Dead, Spider-Man, Deadpool, etc. Mais Sequencity, c'est aussi et surtout les toutes dernières nouveautés. On a aussi donc la plateforme qui permet de lire certains titres gratuitement. Alors la liste est disponible sur internet, hein, elle serait beaucoup trop longue pour vous la lire à la radio, mais je vous invite vraiment à aller voir. C'est le site Sequencity. Ça s'écrit Sequencity. On vous mettra le lien à ce moment-là sur la page Facebook de l'émission Bonne Geek Mafia. Alors voilà, le petit au niveau du prix, hein, c'est pareil, c'est un abonnement, mais ça peut être jusqu'à 50% moins cher que les BD papier, et avec des promotions chaque semaine sur certains titres à moins de 3€. Pour terminer ma chronique, je vous parle de l'application YouBooks, donc YOU et collé BOOX, YouBooks. C'est une application de lecture en ligne hein, qui fonctionne uniquement par abonnement. Alors si les BD, mangas et autres comics y sont disponibles, hein, la plateforme est un peu plus large puisqu'elle propose aussi des livres et la lecture de la presse. Il y a aussi une offre hein, qui permet de profiter de tout cela pour seulement 99 centimes par mois pendant 3 mois et c'est sans engagement. C'est franchement une bonne opportunité pour lire tout ce qu'on veut à petit prix. Donc voilà, mes 4 applications pour vous sauver la vie en matière de lecture de BD, comics et mangas. La première, on a BD Buzz. La seconde s'appelle Isneo, la troisième c'est Sequencity, et la dernière, YouBooks. Voilà. Eh bien écoutez, chers auditeurs, j'étais ravi de faire cette petite chronique, même à distance du studio de Bang Geek Mafia. Je suis ravi aussi d'avoir retrouvé de manière virtuelle mes chroniqueurs. Et je vous dis à tous, bon confinement, prenez soin de vous, restez chez vous, et on reste connectés. À bientôt, chers auditeurs.
Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous.
au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. Mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison. Moi aussi j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle. Je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête mosse. Devant Bichat, la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non, tu repars. Ça m'énerve,
ça m'énerve, ça m'énerve.
J'appelle Amazon, une blondasse au téléphone me dit:
je peux vous aider?
J'ai plus de PQ, vous livrez. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve.
Elle m'énerve, elle m'énerve.
J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit: Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit: Helmut, rentre chez toi.
Nous sommes en guerre.
Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian. Qui peuvent plus s'asseoir, arrêter le parmesan. Ça m'énerve, tous ces gens qui font la queue devant le Franprix. Tout ça pour des panzani. Mais bon, en 5 minutes c'est cuit.
Ça m'énerve.
Ça m'énerve.
Malheureusement, on est positionné entre la Sarthe, la Mayenne, la Vendée.
Faites attention, il y a radar à l'entrée. Il faut freiner, sinon tu te fais flasher.
Au Rochefoucauld est le seul parking gratuit. Mais c'est la merde, il est toujours en vie.
Si t'aimes la douceur et la soupe en juive, viens avec nous, on partage nos racines. Si tu veux t'enjailler tout l'été, rejoins-nous dans la ville d'Angers. Si tu veux t'ambiancer toute l'année, rejoins-nous, frère, aussi sans danger.
Sans danger.
Grand Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5.
Creature Shock Radio.
The day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Radio G. 101.5 FM.
Vous aimez le ska, le rocksteady, la soul et le punk? Écoutez Rudy's Back tous les mercredis de 20h à 22h sur les 101.5 de Radio G à Angers ou sur le www.radio-g.fr.
Rudy, a message to you, Rudy.
Retrouvez nos playlists et podcasts sur rudisback.free.fr.
Radio G 101.5 FM.